Allô, allô, c'est parti.
Culture du cœur.
Sur l'autre radio.
Plus de renseignements, rendez-vous sur le site culturedducœur.org.
Émission spéciale de Culture du cœur, puisqu'aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver les émissions réalisées lors d'ateliers au sein du lycée Robert Buron à Laval sur le thème des discriminations. Mais également différentes citations ou des réflexions, des idées émanant des différents débats qui ont pu avoir lieu lors de ces ateliers. Et en toute fin, pour terminer, l'interview de François Hillan, coordinateur du collectif Unissons nos différences en Mayenne.
Bonjour à tous, aujourd'hui, émission autour de la discrimination. Plusieurs personnes sont avec moi aujourd'hui pour en parler plus en détail. Nous avons Mathis et Manon qui vont nous parler de l'orientation sexuelle et du sexisme. Ensuite, nous avons Aïla et Emma qui nous parleront de la discrimination raciale.
Et nous terminerons par Lidvine avec la thématique du racisme et du physique. Maintenant, c'est au tour de Mathis avec le sexisme.
Je vais tout d'abord commencer par un témoignage de Sylvie, 36 ans. Elle rencontre des problèmes depuis son installation il y a quelques mois. Les contacts avec son voisin sont un prétexte pour profiter des insultes. Ça trave si t'as des couilles, sors de chez toi. La transphobie cogne à sa porte. Un témoignage qu'on peut voir sur SOS Homophobie. Je vais vous expliquer maintenant ce qu'est l'homophobie. L'homophobie désigne des manifestations de mépris, rejet et haine envers les personnes qui aiment le même sexe. L'homophobie est punie d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 euros. Je vais vous présenter le refuge. C'est une structure qui aide et loge des jeunes LGBT âgés de 14 ans à 25 ans, rejetés par leur entourage. Les plus grands chiffres que le refuge compte à ce jour sont 8503 jeunes accompagnés, 2032 jeunes hébergés et 16 054 donateurs. La marraine du refuge est Muriel Robin, dont je vais faire un petit zoom sur elle. Muriel Robin est une femme actrice, humoriste et réalisatrice. Elle est elle-même bisexuelle. Elle lutte énormément pour beaucoup de causes, comme les violences faites aux femmes. Maintenant, je vais vous parler de Lady Gaga, militante LGBTQ+, dans le monde. Lady Gaga est l'une des plus grandes militantes actuelles contre l'homophobie dans le monde. Elle a été récompensée pour son titre « Born This Way » en référence aux LGBT. Elle a aussi dénoncé le pape Benoît XVI. Et maintenant, je vais vous faire un petit blind test sur Lady Gaga. C'est ça, Shallow de Lady Gaga et de Bradley Cooper. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Cette chanson était Born This Way, dont j'ai parlé précédemment.
Merci bien Mathis, et voici Manon qui va nous parler du sexisme.
Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Sheila, plus précisément sa chanson sur Si j'étais un homme. Résolument féminine, Sheila ne s'encombre pas des règles et brise les tabous. Sheila chante ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Un modèle presque malgré elle pour beaucoup de femmes, aujourd'hui l'Europe devient féministe. La chanteuse se met à la place d'un homme et fait tomber les masques. Elle aborde des thèmes comme le harcèlement de rue, le machisme ou alors l'inégalité entre les hommes et les femmes.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie.
je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, oh, ou, 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 si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Je te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Merci beaucoup Manon. Maintenant, c'est au tour d'Ayla qui va nous parler de Rosa Parks.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la militante Rosa Parks. Pour commencer, que se passe-t-il aux États-Unis entre 1877 et 1913 ? Alors, entre 1877 et 1913, les États-Unis sont déchirés par la ségrégation raciale. Mais alors, déjà, c'est quoi la ségrégation raciale ? Alors, la ségrégation raciale, c'est le fait de séparer des personnes selon des critères raciaux, que ce soit dans les activités du quotidien, de la vie professionnelle ou même dans les exercices des droits civiques. Qui est Rosa Parks ? Rosa Parks est née le 4 février 1913 en Alabama, aux États-Unis. Elle est décédée le 24 octobre 2005 à Détroit. Elle était une militante afro-américaine pour les droits civiques. Elle a aussi lutté contre la ségrégation raciale. Cette couturière noire de l'Alabama est devenue un mythe, lorsqu'elle a simplement refusé de se lever dans un bus pour céder sa place à un blanc. Dans une Amérique de la ségrégation raciale, les lois du comité de Montgomery en Alabama réservaient les 4 premiers rangs de bus aux blancs et ceux au fond aux noirs. Ceux-ci avaient aussi le droit de s'asseoir sur les rangées du milieu, mais devaient céder leur place si un blanc la demandait. Mais alors, que s'est-il passé cette fameuse journée du 1er décembre 1955 ? Le 1er décembre 1955, Rosa Parks rend une journée de travail normale, comme d'habitude. Elle s'assoit sur la première rangée du milieu, à côté d'autres noirs. Quelques arrêts plus loin, plusieurs blancs montent dans le bus et l'un d'entre eux se retrouve debout. Il n'est pas question qu'il aille s'asseoir parmi les noirs. Le chauffeur demande alors à ces derniers de céder leur place. 3 d'entre eux optent en paire, mais Rosa Parks refuse. Le chauffeur insiste, appelle la police et Rosa Parks est arrêtée. Un mouvement de soutien s'organise autour de cette femme de 42 ans qui refuse l'injustice. Un pasteur de Montgomery, totalement inconnu, est à la pointe du soutien de Rosa Parks. Il a 26 ans, il s'appelle Martin Luther King. Rosa Parks et son mari Raymond sont dans le militant de la NAACP, le mouvement d'émancipation des Noirs américains. Rosa Parks accepte que son procès serve d'exemple. Elle est condamnée, fait appel à son cas et portée devant la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine. Pour soutenir Rosa Parks, Martin Luther King et les responsables locaux de la NAACP organisent une campagne de boycottage des bus du comté qui va durer plus d'un an. Les Noirs acceptent de marcher pour aller au travail, mettant en péril la société de bus dont ils sont les principaux clients. Martin Luther King inaugure ainsi les actions non violentes qui vont caractériser ses modes d'intervention politique. Un an après, la Cour suprême annule les lois de ségrégation appliquées pour les transports dans le comité de Montgomery. Rosa Parks quitte Montgomery peu après sa victoire, lassée des coups de téléphone anonymes, alors que les maisons de ses partisans sont incendiées. Elle s'installe à Détroit où elle continue son travail de couturière avant de travailler au bureau des députés du Michigan, Jones Conyers. Elle n'a pas voulu suivre Martin Luther King dans sa croisade pendant les années 1960, mais elle a participé à quelques marches. Dans ses mémoires, Rosa Parks a dit « Les gens ont toujours cru que je n'avais pas cédé ma place parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, j'étais surtout fatiguée de devoir capituler. » Elle a aussi dit « Je veux que tout le monde se souvienne de moi comme quelqu'un qui voulait être libre. » Et encore aujourd'hui, Rosa Parks est restée une figure respectée de la révolte des Noirs.
Merci beaucoup Aïla pour ce très joli texte. Et maintenant, c'est parti pour Martin Luther King avec Emma.
Martin Luther King est un Afro-Américain né le 15 janvier 1929 à Atlanta. Né dans une famille de pasteurs, il décide de suivre la voie familiale. Le 1er décembre 1955 a eu lieu l'affaire Rosa Parks que ma collègue vous a expliqué précédemment. Suite au boycott de la compagnie de bus de la ville, le soir même, une organisation est créée avec Martin Luther King. Suite à cet événement, il est élu président du SCLC, Conférence des leaders des chrétiens du Sud, qui lutte contre la non-violence pour les droits civiques des Noirs. Le 28 août, il fait son célèbre discours « I have a dream ». Ce discours appelle à la fraternité entre Noirs et Blancs.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Suite à de nombreux discours de ce genre, il reçut le prix Nobel de la paix en 1964. Il fut assassiné le 4 avril 1968 par James Earl Ray.
Merci beaucoup Emma pour cette jolie explication de Martin Luther King. Maintenant, c'est au tour de Lidvin qui va nous parler de la chanson Black or White de Michael Jackson.
Bonjour. La chanson, sortie le 11 novembre 1991, dénonce l'intolérance entre générations au début du clip. Il veut nous faire comprendre que la discrimination ne sert à rien, car nous sommes tous issus de la même espèce selon lui. À la fin de son clip, nous pouvons voir un morphing qui sert à nous réconcilier tous au-delà de nos différences physiques et culturelles. Il défend son idée avec ces phrases. « Yes, we're all on the same. » »« Oui, nous sommes une seule et même personne. » »« It don't matter if you're black or white. » »« Peu importe que tu sois noir ou blanc. » »« I talk about equality and it's true. » »« J'ai parlé d'égalité et c'est vrai. » Tout ça pour dire que nous sommes tous faits de la même façon et que malgré nos différences, nous vivons dans le même monde. Eat this.
Yeah. rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
Merci à tous d'avoir présenté chacun votre discrimination différente. Je tiens aussi à remercier notre professeur, M. Imos, d'avoir préparé ce projet. Merci à l'autre radio de nous avoir accueillis afin de réaliser ce projet. Et aussi merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Ayla, Mathis, Lidvine, Manon et Emma. Bye bye tout le monde.
Au revoir. Au revoir.
Le progrès naît de la diversité des cultures et l'affirmation des personnalités. Pierre Joliot.
Pour vivre ensemble, il faut une brassée d'amour et une pincée d'humour.
Roger Etcheverry.
Donc et vous, pour les discriminations ?
Mais j'y pense déjà de base.
Après, on en réfléchit tous les jours.
Tous les jours.
Ouais.
Enfin, moi, j'ai des parents qui sont très carrés là-dessus, qu'on parle souvent. On en parle souvent ensemble. On doit apprendre à connaître la personne avant de la juger. En fait, c'est comme ça qu'on est chez nous.
Moi c'est l'inverse. C'est, je vois le, moi c'est, après je dirais pas la personne, mais dans mon entourage, c'est je regarde la personne, je sais qu'elle est comme ça, donc je vais pas aller vers elle. Après c'est différent parce que nous on a notre idée, nos parents ont leurs idées du fait de leur vécu avant et les idées qu'on leur a dites. Du coup ce qui fait que c'est pas forcément. Cool.
Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. Robert Sabatier.
La tolérance est une vertu qui rend la paix possible.
Kofi Annan.
Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de Thaé, Thaïs et Diana. Elles vont nous parler de Joséphine Baker et de sa lutte contre le racisme.
Alors, en premier temps, la biographie de Joséphine Baker avec Thaé. En deuxième temps, les éléments phares de la vie de Joséphine Baker avec Thaïs. Et pour finir, sa vie d'artiste présentée par Diana. Bonjour Thaé.
Bonjour Angela.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Merci, c'est à vous.
Joséphine Baker était une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française. D'origine américaine, née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, est morte le 12 avril 1975, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la première femme noire à devenir célèbre.
Merci beaucoup Thaé. Bonjour Thaïs.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Très bien, merci à vous.
Joséphine Baker a joué un rôle important dans la résistance. Elle a utilisé sa grande popularité dans la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs en soutenant le mouvement américain des droits civiques. Dès la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, elle devient agent du contre-espionnage. À cet effet, elle fréquente la haute société parisienne, puis se mobilise pour la Croix-Rouge. Elle a participé en 1963 à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté organisée par Martin Luther King.
Merci Thaïs. Bonjour Diana.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Bien et vous ?
Très bien, merci.
Joséphine Baker lutte contre le racisme en montant sur scène vers les années 30-40, en étant la première vedette noire. Pourquoi ne pas vous citer une de ses citations ? Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang et les mêmes besoins d'amour. Cette citation montre qu'elle voulait que tout le monde vive ensemble dans la paix. Dans ses musiques, elle transmettait un message aux résistants, comme dans « J'ai deux amours », qu'on va écouter.
Mon espoir, j'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, la savane est belle. Jettant les bras et le cœur battant de moi, à mi-voix, doucement je dis, emporte-moi.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était
Alicia, Diana,
Thaïs,
Angela
et Taé.
Pour vous servir.
Au revoir.
Métissage, voilà mon idéal de culture.
Michel Serres.
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots.
Martin Luther King.
Moi, je pense que c'est une question d'éducation et beaucoup de personnes qui restent bloquées dans le passé aussi, surtout nos parents. Parce qu'eux, ils ont un vécu et du coup, ils nous inculquent ce qui en peu ils ont vécu, leurs problèmes, mais en fait, on n'aura pas forcément les mêmes ressentis, les mêmes... on va pas refaire les mêmes erreurs, on va dire que eux, des fois.
J'espère.
Je pense qu'ils ont un peu trop peur parfois. Et
là, c'est l'éducation.
Je pense que c'est vraiment à cause de l'éducation des parents, parce que je veux dire, si c'est eux qui nous éduquent, enfin, la personne qui éduque l'enfant, qui inculque que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui sortent. Des choses homophobes ou racisme ou autre, alors qu'on est en plein dedans et qu'on essaye de lutter contre ça depuis très longtemps même. Et ils arrivent à dire ça alors que ils sont jeunes. Enfin, ça paraît bizarre, mais je pense que c'est l'éducation des parents. Et voilà, ils jugent, mais ils connaissent pas. Ça, j'aime pas entendre des personnes qui parlent alors qu'ils connaissent même pas, à part sur des blagues et des trucs qu'ils entendent.
Ouais. C'était waouh.
C'est ça.
Pour moi, tu peux rigoler si c'est par exemple ta religion ou si c'est ta couleur de peau, tu peux te moquer de toi-même. Mais certaines personnes, ils parlent, ils font des blagues, mais ils connaissent pas. Ou ils vont commencer par dire « Je suis pas raciste, mais en fait, le truc que tu vas dire, c'est raciste. » Du coup, pourquoi tu dis ça ? Et puis ça fait rire les autres, ou ceux, bah, les gens qui voient qu'ils sont témoins de ça, justement, ils vont rigoler, et dès qu'on va leur faire la remarque que des fois c'était pas drôle ou des trucs comme ça, ils vont dire non, mais je rigole parce que c'est un d'elle qui a fait la blague. En mode, ils assument pas qu'ils ont rigolé. Et quand tu rigoles, pour moi, tu participes au truc.
C'est ça.
C'est comme quand tu vois quelqu'un qui se fait discriminer, c'est pour ça qu'il faut réagir justement. Mmh. Parce que tu participes, c'est pas parce que c'est pas toi qui fais la blague que t'as rien à voir dedans.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une étrangère qui vit en France et nous allons également parler de l'orientation sexuelle à travers l'histoire de Bilal Hassani. Nous allons échanger sur l'histoire de Laorissa et son ressenti. Je vous laisse avec les deux journalistes, Elodie et Maureen.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour, j'ai 19 ans et je suis d'origine kosovare-albanaise.
T'es en France depuis combien de temps ?
Depuis 2014.
Pourquoi es-tu venue en France et pas dans un autre pays ?
Bah, au Kosovo, on a toujours, on savait toujours que la France est un pays qui accepte les réfugiés. Après, on avait de la famille ici qui nous ont dit que si vous venez ici, vous êtes plus en sécurité. Et il y avait ma sœur aussi qui parlait un peu, elle savait parler un peu des mots en français.
T'es venue en France comment ?
Avec un camion que mon grand-père avait payé au début. Et jusqu'à Bosnie. À Bosnie, c'était les gendarmes qui nous ont pris pour nous mettre en prison. Et on est resté en prison une semaine et demie. Après une semaine et demie, ils nous ont lâchés et ils nous ont partis chercher un train pour venir en France.
C'est pas trop dur d'être étrangère en France ?
Ça dépend, mais oui. Oui, ça dépend. Mais c'est dur d'être étranger parce que toujours mise de ce côté. T'es toujours, t'as pas la possibilité de faire la vie comme les Français, par exemple. Quand étranger sans papier, c'est dur parce que tu peux pas travailler. T'as pas de futur, quoi. T'as pas une vie normale et comme avec la situation d'aujourd'hui, vu les confinements et tout, ça veut dire que nous, on est au confinement depuis qu'on est arrivé en France, quoi.
On en parlait avant l'émission, donc malgré que ça fait 6 ans que tu es en France, tu n'as pas eu de papier.
C'est exactement ça. Depuis qu'on est arrivé, mes parents et moi aussi, nous avons fait des demandes auprès de la préfecture, mais ils ne nous ont pas donné de suite. C'était toujours des rejetés, même si on a fait des demandes pour les contrats de travail aussi et plein d'autres.
Et comment ça s'est passé, les études sans papier ?
Les études, c'était bien passé parce que ça ne m'a pas posé de problème les papiers à part au troisième quand il y avait la sortie en dehors de la France. Mais sinon, c'était bien jusqu'à maintenant.
Est-ce que la barrière de la langue t'a posé problème ?
Oui, parce que quand je suis venue en France, je ne savais même pas dire un mot à part merci que j'ai appris après. Mais jusqu'en troisième, je suis allée dans des cours qui donnent cours français 2 heures par semaine. Je suis allée pour apprendre le français et c'était dur parce qu'il y avait les camarades de classe qui comprenaient pas beaucoup tout ce que je disais. Après, j'ai parlé en anglais aussi pour qu'ils comprennent. Mais c'était dur parce qu'ils rigolaient quand je parlais. Mais après, maintenant, non. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes à part mes parents qui ne savent pas beaucoup parler et qu'il faut que j'aille avec eux dans tous les rendez-vous, dans toutes les réunions qu'ils font, par exemple, pour ça.
Est-ce que tu as eu des aides financières ou autres ?
Au début, non. Pas vraiment, jusqu'à que... on avait resté dehors dans la rue pendant un mois pour que, je ne sais pas si on connaît le 115 qui trouve des logements pour les étrangers sans papier et qui sont dehors. Ils nous ont trouvé un logement après un mois. On est resté pendant jusqu'à quand les procédures de la préfecture sont finies. Après deux ans normalement, on avait sorti, on s'est retrouvés dehors encore pendant quelques semaines. Mais vu qu'ils nous aident, ils nous ont aidés pendant les procédures, mes parents ont économisé un peu l'argent pour qu'on trouve un logement après. Et après, on a trouvé un logement que c'est pas cher, pour qu'on peut vivre au moins, avoir un toit sur nos têtes, quoi.
Et pour finir, dernière question, quels sont tes projets pour ton avenir?
J'ai bien sûr qu'on a tous des projets comme tout le monde, mais je pense que ça reste qu'un rêve si j'ai pas les papiers. J'aime bien continuer l'école, mes études supérieures, car sans les papiers, on peut pas continuer l'école après le bac. Après, j'aimais bien voir mes parents travailler, aller au travail comme tout le monde. Et fonder une famille, de pouvoir vivre en France sans avoir peur de que les gendarmes viennent tous les jours, nous prennent et nous renvoient au Kosovo. Et donc, c'est ça.
Merci pour tes réponses.
Merci à vous que vous m'avez écouté. Merci à tout le monde qui comprenne un peu les étrangers. Les étrangers aussi sur papier parce qu'il y a une différence, je crois. Mais merci à les stations aussi RCF qui nous aident encore à Mayenne par rapport au papier. Merci aux Croix-Rouges qui nous ont aidés pour les vêtements et tout. Merci beaucoup.
Merci Laurissa pour tes réponses en espérant que tu obtiennes tes papiers d'ici peu. Maintenant, Tania va nous parler de Bilal Hassani.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Bilal Hassani, jeune chanteur de 21 ans qui se fait connaître en 2015 sur YouTube et a ensuite représenté la France à l'Eurovision 2019. Le 23 juin 2017, Bilal Hassani annonce publiquement son homosexualité sur les réseaux sociaux. Il a eu du mal à s'accepter publiquement. Il se dévoile donc à travers la chanson. Lors de sa participation à l'Eurovision, une vidéo de lui et d'un ami dansant dans la rue en chantonnant « La France a vraiment souffert, attentat par-ci, attentat par-là » tourne sur les réseaux sociaux, ce qui crée une polémique. Le sénateur Henri Leroy demande que Bilal Hassani soit écarté d'urgence du concours. En réalité, cette vidéo est une parodie d'une autre vidéo publiée à l'occasion de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Guillaume Mélani, de l'association Urgence Homophobie, qui est un soutien de Bilal Hassani, déclare que les deux vidéos, l'original et la parodie de Bilal, célèbrent la France en faisant référence au titre mondial des Bleus. À l'heure actuelle, Bilal Hassani s'assume complètement publiquement.
Pour finir, nous allons passer la chanson qu'a chantée Bilal Hassani à l'Eurovision 2019.
Ne me demandez pas qui je suis. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. You put me in a box, want me to be like you. Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not a rich, but I'm shining bright. Parfois l'amour aussi, ça passe ou ça casse, mais ça.
Merci, merci de nous avoir écoutés. C'était l'autre radio.
Au revoir.
Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence.
Anna Gavalda.
La terre est à tout le monde. Les frontières n'y changeront rien.
Julien Green.
Le sexisme, comme le racisme, commence par la généralisation, c'est-à-dire la bêtise. Christiane Colomb.
Pour vous, quelle serait une des solutions, à long terme compliquées, mais pour essayer de régler ces les discriminations et d'essayer de les éviter au maximum parce qu'elles font du mal.
Agir et éduquer les enfants, surtout.
Éduquer tout le monde, parce que ça soit les enfants les et les adultes,
faut éduquer les
ça, c'est exactement pareil, parce qu'au final, tout vient des adultes. Oui. On ne va pas se plaindre, tout vient des adultes. Donc au final, il y a même les adultes qu'il faut faire parce que, au final, on est tous pareils. On a 4 membres pour certains, malheureusement, il y en a qui en ont 3. Il y en a qui en ont 2. Mais on est tous humains, on est en chair et en os. Et voilà, c'est.
Compris, là. Vous m'avez perdu avec vos membres.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, si tu veux, le truc, c'est qu'on est tous en chair, on a tous des veines, on a tous des trucs.
On est tous des humains.
On est tous, voilà, on est en chair, quoi. Et au final, bah. Pourquoi discriminer alors qu'on est tous pareils?
Comme dans la chanson qui dit.
Enfin, ça va être trop drôle la radio.
Bonjour, je m'appelle Laïten. Je suis en compagnie de Soumia et Enora. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les Femen. C'est un groupe de femmes qui a été créé en 2008 en Ukraine. Les militantes défendent le droit des femmes. Elles sont connues pour la provocation de leurs actions, souvent seins nus.
Il y a eu des Femen devant les ministères des armées pour dénoncer une décision de justice qui est que 3 pompiers initialement mis en examen pour viol aggravé sur une adolescente viennent d'être renvoyés en correctionnel pour atteinte sexuelle.
Bonjour Enora, bonjour Aïten. Donc par exemple, Karine Plassard est une militante féministe qui a été à l'origine de la première mobilisation qui a abouti à la grâce de Jacqueline Sauvage en janvier dernier. Elle a aussi lancé une pétition pour demander la libération immédiate et ce qui a été accepté. Merci, au revoir et bonne fin d'après-midi.
Merci, au revoir.
Merci. J'emmène le micro.
Donc bonjour François.
Bonjour.
Donc est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors je m'appelle François Hilan, je suis chargé de mission à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. Dans le cadre de mes missions, je coordonne en fait le collectif Unissons nos différences.
Alors quel est le but de ce collectif?
Alors du coup, le collectif qui a été mis en place en fait donc il y a maintenant en 2006, donc il y a une quinzaine d'années, et l'idée c'est un collectif qui rassemble en fait des associations, des collectivités, des structures, et l'idée c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient liées au genre, à l'origine, au handicap, ou à la religion, à l'orientation sexuelle. Voilà, donc on retrouve je dirais une vingtaine d'associations, enfin de structures en tout cas dans ce collectif.
Ok. Donc vous avez dit que l'UND existait depuis 2006?
C'est ça, exactement. Alors en fait, c'était l'initiative de 3 structures, les 3 mondes, Alter Ego, et donc nous, la Ligue de l'enseignement.
Okay.
Voilà, c'était l'idée en tout cas de pouvoir travailler ensemble. Chacun avait en tout cas son identité propre à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était de se dire, bah tiens, si on se réunit, on aurait peut-être un peu plus de force. Mmh. Voilà, donc du coup, ces 3 structures-là, petit à petit, bah, y a eu plus de structures, quoi. Ça a pris en fait, et puis bah, du coup... voilà, il y a eu progressivement le champ d'action, je dirais, du collectif a été élargi.
Ok. Donc là, qui fait partie de ce collectif maintenant?
Alors, donc, ce que je disais, il y a une vingtaine de structures. Donc, on va de structures donc très diverses, avec en tout cas leurs idées propres. Donc, on peut aller voir l'Autre Radio, par exemple. On parle de son à ton interview, l'Autre Radio, fait partie du coup du collectif, au titre de pouvoir diffuser dans la promotion, en tout cas, de ce qui se passe dans le collectif et de la lutte contre le financement. On a donc forcément la Ligue de l'Enseignement, puisque nous on est toujours resté depuis le début. Les Trois Mondes aussi, qui étaient des débuts, sont toujours partis, sont toujours présents. On a la structure Qu'est-ce qu'on dit, pour tout ce qui me permet, en fait, en tout cas, le rapport au handicap, notamment. On a l'association Femmes Solidaires pour l'égalité femmes-hommes. Enfin voilà, je pourrais toutes vous les citer, mais en tout cas, voilà, c'est une vingtaine de structures avec, voilà, vous le voyez bien pendant ce que je vous dis, avec vraiment des choses très variées, très diverses en tout cas. Mais c'est ce qui fait la force de ce collectif. C'est-à-dire qu'en fait, avec la diversité de chacun et l'identité de chacun, chacun a son combat propre, et eh bien en tout cas, on se réunit pour un but commun, je dirais, c'est la lutte contre les discriminations.
Okay.
Et toute forme de discrimination, c'est important de préciser.
Et du coup, qui peut intégrer ce collectif?
Alors je dirais tout le monde, et ça serait bien que tout le monde l'intègre. Alors je dirais toutes les structures qui existent, parce qu'effectivement, je pense que plus on est nombreux dans ce collectif, plus il est représenté, plus il y a une force, en tout cas auprès du grand public. Il peut accompagner aussi les citoyens, parce que les citoyens qui sont victimes aussi de discrimination, bien c'est aussi, ça peut être aussi une des forces au fait du collectif. C'est un collectif très ouvert. On a notamment, en ce moment, on est en train de travailler avec une structure qui travaille sur la santé mentale, qui avait mis un projet en place sur les discriminations, bah, qui voilà, se pose la question de pourquoi pas intégrer le collectif. C'est pas du tout restrictif, en tout cas. C'est pas l'idée.
Alors, qui anime ce réseau?
Alors, moi, j'anime, du coup. Alors, je dirais j'anime et je coordonne le réseau au titre de la Ligue de l'Enseignement. Mais après, du coup, il est animé, je dirais, par l'ensemble, en tout cas, des structures qui font partie de ce réseau. Okay. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des décisions communes. C'est-à-dire que moi, je suis juste, enfin, là, pour orienter un petit peu, pour voilà, faciliter, en tout cas, des prises de décisions. Mais en tout cas, toutes les décisions, toutes les orientations, tout ce qui est mis en place, c'est vraiment, est au nom du collectif. C'est bien l'idée, en tout cas, de façon, ce qu'on peut mettre derrière un collectif. Mais voilà, moi, je suis juste là pour accompagner. Mais les décisions sont vraiment prises, en tout cas, par le collectif lui-même.
Ok. Et est-ce qu'il existe d'autres collectifs de ce type dans différents départements?
Oui, complètement. En fait, il y a des collectifs partout, dans tous les départements, des collectifs UND, une sont différentes, qui peuvent exister par exemple dans le département de Loire-Atlantique, dans le département de la Sarre, dans le département du Maine-et-Loire aussi. Okay. Alors plus ou moins avec à des échelles différentes, il y a des collectifs plus petits, avec il y a peut-être que 4-5 structures qui sont un peu au démarrage, il y a des collectifs qui sont très très avancés et qui ont déjà pas mal de structures, qui ont une implantation sur un territoire, je pense notamment au collectif sur la Loire-Atlantique qui est très bien implanté, avec voilà, en termes de communication, de newsletter, un site internet, hein, voilà. Donc, mais oui, il existe des différentes, enfin, en tout cas, à peu près le même collectif dans d'autres départements.
Ok. Et est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'actions menées?
Oui, alors du coup, nous, principalement, les actions qui sont menées par le collectif, et ça c'est important de le préciser, sont menées dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations. Elles ont lieu en mars, tous les ans en fait, et là c'est vraiment le point d'orgue, je dirais, du collectif. C'est-à-dire que le collectif se voit toute l'année, on se fait quasiment une réunion par mois, voilà, pour avoir un peu l'actualité de chacun, parce que c'est important aussi qu'au sein du collectif, chaque structure sache un peu où en est, je dirais, entre guillemets, le combat de chacun, puis ce que fait chacun, ce que propose chacun pour pouvoir y participer. Et puis on a ce point d'or qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire c'est les SECD, les semaines d'éducation contre les discriminations. Dans ce qu'on propose, c'est très divers, et c'est ça aussi notre force, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque structure est différente et apporte des choses différentes. Et même dans les actions qu'elle propose, on a des choses très diverses. Ça va, par exemple, de ciné-débat sur des films thématiques. On a pu parler du harcèlement, par exemple, à l'école, avec des témoignages derrière, et puis ensuite du débat. Ça va de pièces de théâtre. Là, je pense, par exemple, et là, c'est en avant-première pour vous, dans le cadre des SECD 2021, on aura une pièce de théâtre, notamment par Femmes Solidaires, égalité homme-femme. On a des témoignages, on a aussi parfois des expositions qui sont montées. Je repense à moi depuis que je coordonne, là, ça fait 2 ans, il y a l'AMAV, l'association des gens du voyage, qui va accompagner des enfants, qui ont fait une exposition par exemple, ils refont cette année encore une expo, donc ça va d'une expo, ça va aussi de faire venir des auteurs de livres en fait, pour pouvoir échanger aussi, donc notamment avec la LDH, enfin voilà, c'est vraiment très divers, hein, c'est la force du collectif, c'est-à-dire qu'en fait en termes d'action qu'on propose, il y a des choses très variées, je pense aussi à tout ce qui a été fait en termes d'émissions radio avec Culture du Cœur, enfin voilà. Donc voilà, on est dans du son, on est dans de la vidéo, on est dans de l'expo, enfin dans, voilà, on est vraiment, c'est très vaste. Et ça plaît à tout public, c'est aussi l'idée du coup, que ça puisse correspondre à un public très large.
Ok. Eh ben super, bah, merci beaucoup François.
Bah merci, et puis à bientôt.
Ouais, bientôt.
Allô, allô, c'est parti.
Culture du Cœur
sur l'Autre Radio. Plus de renseignements, rendez-vous sur le site culturedu-coeur.org.